Vous écoutez France Culture, il est 6h45 et c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier. Et oui, les enjeux internationaux qui se dirigent vers l'Amérique latine avec l'appel à l'aide internationale de 3 pays andins hier pour accueillir les réfugiés du Venezuela. Un stade de crise, je cite, comparable à la Méditerranée, c'est ce qu'estimait l'Organisation internationale des migrations il y a une semaine. Et on en parle avec vous, Gaspard Estrada. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu. Vous êtes le directeur exécutif de l'OPALC, l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes de Sciences Po. Alors, 1 600 000 personnes ont quitté le Venezuela depuis 2015. Exode d'abord économique, qui s'est amplifié avec la crise politique de 2017. Les 4 principaux pays d'accueil voisins, Colombie, Équateur, Pérou, où ils étaient réunis, et puis le Brésil, sont sous pression. Les 3 premiers ont pris des mesures de restriction. Et face aux violences xénophobes, le président brésilien Temer a envoyé l'armée mercredi dans le nord. Pour lui, d'ailleurs, la crise menace, je cite, l'harmonie de quasiment tout le continent. Alors on sait, Gaspard Estrada, que le contexte diplomatique est déjà tendu, le Venezuela isolé. Les 2 principales organisations, ALBA et UNASUR, ont déjà d'ailleurs enregistré des départs. Cette situation pourrait peser sur l'économie du sous-continent, dit le FMI, et peut-être aussi menacer l'intégration régionale. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que l'intégrité, on pourrait dire démographique, du Venezuela est quasiment menacée, puisqu'on dit que depuis 1999, c'est quasiment plus de 10% de la population qui est à l'étranger, c'est ça, qui a fui.
Alors, en effet, il s'agit d'un phénomène inédit en Amérique latine. Il y a eu, au XXe siècle, des phénomènes migratoires à l'intérieur des pays. Je pense notamment à la Colombie, qui fait face depuis déjà plus de 60 ans à une guerre entre le gouvernement et les FARC. Il y a eu donc cet accord de paix, il y a encore des négociations en cours avec le ELN. Mais donc cela avait eu pour conséquence justement une migration interne avec des déplacés en Colombie. C'est plusieurs millions, on parle de plusieurs millions de personnes, mais il n'y avait jamais eu une crise migratoire internationale. Et donc de ce point de vue-là, aujourd'hui les gouvernements latino-américains font face à une nouveauté, ils savent mal, ils ne sont pas habitués justement à réagir face à ce genre de pression migratoire, mais on voit bien que, de la même manière qu'en Europe, lorsque les réponses sont nationales, on a du mal justement à coordonner et à enrayer ces flux migratoires. C'est pour cela que aujourd'hui on voit bien que les gouvernements latino-américains essaient d'apporter des réponses multilatérales, des réponses coordonnées, justement pour éviter que de ces réponses nationales émerge une sorte de chaos.
Et alors justement, vous dites les gouvernements latino-américains ou d'abord un certain nombre de pays privilégiés latino-américains, comme vous l'expliquez, je crois, sur France Info. Vous disiez en gros la proximité est le principal critère, c'est ça d'abord pour les réfugiés vénézuéliens ?
Très clairement, parce que les réfugiés vénézuéliens essaient de survivre. Aujourd'hui, on manque de tout au Venezuela. Et donc, ces Vénézuéliens quittent leur territoire avant tout pour pouvoir continuer à vivre, puisqu'ils n'ont plus d'opportunités dans leur pays.
Donc, si on parle de proximité, ça concerne
la Colombie, voilà. notamment, puisque c'est le principal voisin de la Colombie, c'est la principale économie de la zone andine. Et donc, c'est via la Colombie que de nombreux Vénézuéliens essaient d'aller soit en Équateur, soit au Pérou, soit éventuellement dans le cône sud, donc je pense notamment à l'Uruguay et l'Argentine.
Oui, parce qu'on disait aussi qu'ils essayaient de rejoindre des pays, disons, à l'activité économique plus dynamique, Chili, Argentine, ça n'a pas l'air d'être trop le cas pour l'instant.
Surtout le Chili, très clairement, on parle de populations qui sont vulnérables, qui ont peu de moyens, arriver à Santiago ou à Buenos Aires, c'est quand même, on parle de milliers de kilomètres.
Ouais, une longue route. Et face à cela, alors, tout récemment, on a vu le Venezuela essayer de tenter de rapatrier, se montrer confiant. En tout cas, il a lancé un plan qu'il appelle Retour à la patrie, hein, pour faire revenir un certain nombre de réfugiés. Il y en a une petite centaine qui sont revenus la semaine dernière du Pérou par un avion spécialement affrété, avec cette phrase qui a marqué de Nicolas Maduro. Il faudrait que les réfugiés rentrent qu'ils arrêtent de laver les toilettes à l'étranger. Comment est-ce que vous l'interprétez, cette phrase ?
Je pense qu'il s'agit d'un plan de com, un énième plan de com de M. Maduro qui a un vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il n'a plus de crédibilité. Il n'a plus de crédibilité vis-à-vis des Vénézuéliens, il n'a plus de crédibilité vis-à-vis des marchés financiers lorsqu'il a aussi annoncé justement une nouvelle monnaie à arrimer au pétro. Pour essayer de contenir l'hyperinflation qui est aujourd'hui dévore l'économie vénézuélienne. Et aujourd'hui, avec cette opération retour, je vois mal qui au Venezuela, qui parmi ces réfugiés souhaiterait revenir dans un pays où l'on manque de tout.
Et réciproquement, on a vu aussi ces dernières semaines, ou plutôt, ces dernières semaines, les conditions d'accueil de ces fameux pays limitrophes, donc Pérou, Équateur et Colombie principalement, se durcir. Ils ont pris des mesures administratives, notamment de ne demander plus seulement les cartes d'identité, mais les passeports. Qu'est-ce que ça implique pour les réfugiés et qu'est-ce que ça signifie ces mesures ?
Ça signifie qu'il y a justement face à cet afflux inédit des mesures qui sont prises par les gouvernements. Parce que les gouvernements aujourd'hui sont un peu pris par une sorte de panique en recevant des milliers de Vénézuéliens tous les jours, des Vénézuéliens qui manquent de tout, dont ils ont aussi parfois des problèmes sanitaires, parce que ces personnes sont aussi affaiblies sur ce plan-là. Donc aujourd'hui, je pense que on est en train de passer de cet état d'urgence à un état où les gouvernements latino-américains ont pris conscience que cet enjeu était un enjeu structurel et qu'il fallait donc prendre des mesures à la hauteur. Et donc ce genre de mesures passe par des réponses nationales, mais aussi par des réponses multilatérales avec le soutien des Nations Unies. Et donc c'est dans ce sens que les ministres des Affaires étrangères des pays andins ont fait des demandes au Conseil de sécurité, au secrétaire général de l'ONU, pour aussi avoir accès à des financements pour pouvoir recevoir dignement ces réfugiés.
Et vous parliez d'urgence sanitaire, effectivement, le Pérou a décrété l'état d'urgence sanitaire dans le Nord pendant 60 jours. Il craint notamment un retour d'un certain nombre d'épidémies, dont la rougeole. Un mot sur ce qui s'est passé au Brésil tout le courant du mois d'août. Il y a 60 000 réfugiés vénézuéliens qui sont au Brésil sur 200 millions d'habitants. C'est pas grand-chose et pourtant des tensions très fortes, des émeutes contre des réfugiés. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ?
Ce qui se passe, c'est que l'État de Roraima, qui est donc frontalier avec le Venezuela, n'est pas habitué à recevoir de tels flux de migrants. Et donc, il s'agit de zones rurales où il y a assez peu de services publics, assez peu de ressources, tout simplement. Et donc, l'arrivée de ces Vénézuéliens a en effet créé de véritables tensions, d'autant plus qu'il y a une barrière linguistique aussi entre le Brésil et le Venezuela, ce qui n'est pas le cas dans le reste des pays d'Amérique latine hispanophone, et donc c'est ce qui crée ces tensions.
Et alors, si on parle de xénophobie à l'échelle du continent, ça a été évoqué également par le président Maduro, justement pour inciter au retour. Est-ce qu'elle est réelle ou fantasmée? Si on s'attarde sur une autre situation, c'est celle du Costa Rica qui accueille des réfugiés du Nicaragua. Mm-hmm. Là, il y a eu des manifestations récemment xénophobes avec des symboles nazis. On est dans le fantasme où il y a réellement, des tensions très très fortes transfrontalières et transpopulation.
Alors oui, il y a des tensions, sans aucun doute, puisque justement il s'agit là d'un phénomène inédit. Et donc cela crée justement ces tensions, puisque ces migrants demandent tout, puisqu'ils n'ont rien aujourd'hui. La question est de savoir si est-ce que cela se transformera dans un mouvement xénophobe. Moi, j'ai pour le moment encore quelques doutes.
Et dernière chose, alors je le disais en introduction, il y a eu un certain nombre de défections dans les grandes organisations, UNASUR, ALBA, il y a toujours ce fameux groupe de Lima qui était censé promouvoir une solution pacifique à la crise au Venezuela. Quel effet ça peut avoir, cette crise? On voit une tentative de politique commune. C'est un accélérateur d'intégration ou au contraire les prémices de tensions plus fortes encore?
Je pense que on peut s'attendre à ce qu'il y ait des initiatives qui soient prises sur le plan régional. Donc je pense que in fine, il pourrait s'agir des prémices d'une intégration plus poussée. Et donc je salue justement que ces initiatives soient prises sur le plan multilatéral pour éviter que les réponses nationales soit un facteur de tension et non pas d'unité.
Et dernier petit point, le Premier ministre espagnol qui était justement au Pérou hier et qui proposait la mise en place de quotas à l'image de ce qui se fait en Europe, disait-il, ça a un sens ou une probabilité politique dans ce contexte ?
Monsieur Sanchez veut justement mettre en avant cette idée de quota pour pouvoir répliquer ce modèle en Europe. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait quelqu'un qui soit en mesure d'imposer des quotas en Amérique latine.
Eh bien, en tout cas, on suivra la situation qui change chaque jour, chaque heure. Merci Gaspard Estrada, directeur exécutif de l'Opal. Retrouvez les infos et les vidéos sur la page des enjeux internationaux.